La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous. En 1991, après 50 ans d'occupation, les pays baltes ont retrouvé leur indépendance et avec elle la paix et la dignité. Ils ont préféré l'espoir à la haine et montré au monde qu'une lumière veille toujours au fond de la nuit noire. C'est signé Ruta Sepetys, romancière américaine, originaire des pays baltes, pays qui ont rejoint l'Union européenne il y a tout juste 20 ans. Et c'est la Lettonie que nous appelons ce matin. Bonjour, Peter van Engeland.
Bonjour.
Où êtes-vous, Peter, et d'où venez-vous ?
En ce moment, je me trouve à Daugavpils. C'est une ville dans le sud-est de la Lettonie. Et je suis originaire de Malines, tout près d'Anvers, en Flandre.
Alors, vous êtes en Lettonie depuis la chute du mur de Berlin, ou presque ?
Presque. Je suis ici depuis 1996.
Quel parcours, 28 ans de Lettonie. Notre émission s'appelle Les Belges du bout du monde. Belges, alors je suis ravi d'être en ligne avec un néerlandophone, comme vous, et un francophone qui va tout de suite se présenter. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Mon nom est Jean-Philippe, je suis originaire d'un petit village en Ardennes qui s'appelle Ar et qui est au nord de la province de Luxembourg. J'ai étudié mes secondaires au collège Saint-Roch à Ferrières et ensuite j'ai fait l'université en orientation économique à Liège. Maintenant, ça fait 7 ans que j'habite à Riga, la capitale de la Lettonie. La Lettonie, c'est donc un des trois pays baltes avec l'Estonie et la Lituanie, la Lettonie étant celui qui est au milieu. Donc on a l'Estonie au nord, la Lettonie au milieu donc, et la Lituanie au sud. Voilà un peu pour l'orientation géographique.
Jean-Philippe Sklar, que vous connaissez, je crois, Peter, hein ?
Je connais bien Jean-Philippe, oui. On se rencontre régulièrement à Riga, à des rendez-vous plus diplomatiques ou moins diplomatiques, mais on se connaît assez bien.
Il faut dire que les Belges qui vivent en Lettonie, ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être deux, mais maximum. Il travaille, lui, pour l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation. Et si nous sommes en Lettonie aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est la quatrième étape de notre ticket pour l'Europe. Bonjour, Amin Elbakouri.
Bonjour Adrien.
Comment ça va ?
Super et toi ?
Très très bien. Tu es étudiant en réto à Mons. Tu viens de fêter tes 18 ans et tu as passé une semaine dans ce pays que tu ne connaissais pas du tout avant.
Ouais, c'est ça. Quand j'ai participé à l'émission, on m'a dit que j'allais être envoyé dans un pays de l'Union européenne. Mais bien sûr, la Lettonie, c'est le dernier pays auquel je m'attendais.
Tu avais une chance sur 27. Hein.
Ouais, c'est
comment,
ça, c'est ça.
Comment ça s'est passé ?
Bah écoute, ça s'est super bien passé. C'était une super expérience, c'était un super voyage. C'était de la découverte, beaucoup d'aventures. La Lettonie, c'est pas un pays dans lequel je me serais rendu dans ma vie, je pense, si j'avais pas participé à cette émission. Donc ouais, beaucoup d'aventures.
Oui, destination surprise. Tu as seulement appris en arrivant à l'aéroport où tu allais partir. Je vous propose d'écouter le message que t'a envoyé Pierre Gallo juste avant que tu embarques.
Salut Amine, c'est donc la Lettonie que tu t'apprêtes à découvrir. La Lettonie est une république qui fait deux fois la taille de la Belgique et plus de la moitié de leur territoire est recouverte de forêts. Les calculs sont vite faits, ils ont l'équivalent de la Belgique en forêt quoi. De quoi faire de bonnes grosses rando et prendre un bon bol d'air. La seule langue officielle du pays, c'est le letton, mais il y a quand même un peu plus d'un tiers de la population qui parle le russe. Bah ouais, la Lettonie est frontalière de la Russie et de sa grande alliée, la Biélorussie. Et ça, bah, ça les stresse un peu les Lettons, parce qu'on le voit très bien depuis 2 ans maintenant, Poutine est pas 100% à cheval sur les frontières. Mais t'inquiète, hein, on t'y enverrait pas si c'était pas safe. Enfin, je crois. La Lettonie regorge de perles architecturales, des châteaux médiévaux, des églises en bois, et des villes superbes comme la capitale Riga, dont le centre historique est classé à l'UNESCO, et qui est la ville où il y a le plus de bâtiments Art Nouveau au monde. Le pays a déclaré son indépendance le 18 novembre 1918 et a rejoint l'Union Européenne le 1er mai 2004. Voilà, c'était quelques infos en vrac sur la Lettonie, j'espère que ton vol se passera bien, et comme on dit là-bas, pati kamu brausienu, ça veut dire bon voyage en letton.
Et le voyage a été bon, Amine.
Le voyage a été excellent.
2 heures de vol. Quand on arrive, on survole et on voit que c'est un pays très vert. Hein.
Ouais. Comme il l'a dit, la moitié du pays, c'est de la forêt.
Ouais. Et c'est justement dans la forêt que travaille Peter van Engeland. Vous avez créé une entreprise qui s'appelle Bellwood, donc le bois belge, mais là-bas en Lettonie, hein, Peter.
J'ai fondé ma propre entreprise qui s'appelle Sia Bellwood. On s'occupe spécialement de palettes. On fait aussi achat et vente de bois. Et après, depuis 5 ans, on a commencé à planter des bois. On achète des champs agricoles abandonnés ou des autres bois qui ont été coupés et on plante des bois.
Qu'est-ce que vous plantez comme arbre, Peter?
En Lettonie, c'est surtout le bouleau et le sapin et le pin. Mais depuis quelques temps, on plante quand même aussi des peupliers.
OK. Alors, ce n'est pas du bois que vous revendez à IKEA et à des grandes sociétés. Hein, donc, je crois que vous faites très attention pour que ce soit des plantations durables. On va parler un peu de tout ça avec vous d'ici 10 heures. Oui. On va aussi parler un petit peu d'autres moyens de produire de l'énergie, du chauffage et de l'électricité avec un constructeur d'éoliennes.
Depuis la guerre... En Ukraine, la Lettonie avait totalement stoppé les importations de gaz russe. Donc, pour l'instant, ils essaient de trouver des alternatives. Et l'une de ces alternatives, c'est l'éolien. Et donc, cette personne avait pour projet de créer un parc éolien offshore, donc dans la mer Baltique. Et voilà, c'était assez intéressant.
Dans cette émission, on va aussi découvrir la Lettonie côté musical avec ce groupe. Je crois que vous allez les reconnaître, Peter.
Les Belges du bout du monde. Stars are watching us so far. Tonight I know I will get there. But wait on the bus ride to my star. But then there are things you just don't know. In spite someone's told you're so cute. You have to ask and I will show. The snow in the summer on so-so.
Ah, personnellement, je ne connaissais pas, mais je suis certain que Peter a reconnu, lui, ce morceau, Peter van Engeland.
Oui, je le reconnais bien, oui, très bien. Et j'aime encore cette chanson.
C'est une chanson qui a représenté la Lettonie à l'Eurovision en 2000 et qui avait terminé deuxième à l'époque. Le groupe s'appelle Prata Vetra et ils chantent en letton et en anglais. My Star, voilà. Je crois que cette musique, c'était avant que la Lettonie ne rentre dans l'Union européenne. Mais ça a déjà fait parler beaucoup de la Lettonie à l'époque.
Avec cette groupe, après l'Eurovision, les Lettons se sentaient quand même plus européens et ils étaient très intéressés de faire partie de l'Europe. Et bon, c'était un sentiment général, mais ça a quand même aidé et ça a donné beaucoup d'enthousiasme qu'ils étaient deuxièmes et que le reste de l'Europe leur donne beaucoup de points à ce festival et qu'ils sont donc un peu acceptés comme européens. Et c'était donc un moment peut-être important et aussi émotionnel pour les Lettons, dont on parlait beaucoup dans cette période.
Oui, la géopolitique de l'Eurovision. Hein. Dans 15 jours, on y sera avec Musti, un groupe belge qui va nous représenter. Alors, vous êtes un homme des bois, hein, on l'a compris, néerlandophone. Oui. Vous travaillez pour Bellwood, là-bas, votre société, pas très loin de la frontière avec la Biélorussie. Jean-Philippe Sklar, lui, est un homme de terrain aussi, aux quatre coins des Pays-Baltes.
Oui, en effet. En fait, j'occupe le poste de conseiller économique et commercial pour l'AWEX. L'AWEX, c'est l'agence wallonne aux exportations. Notre bureau est basé en Lettonie, à Riga, avec juridiction sur les trois Pays-Baltes. L'Estonie, la Lettonie donc, mais aussi la Lituanie, et pour compléter, la Finlande. Donc notre bureau rayonne vraiment sur toute la région au bénéfice des entreprises wallonnes qui souhaitent exporter, nouer les partenariats stratégiques de services avec des acteurs locaux, des clients locaux, des prospects locaux. Nos services sont vraiment offerts à tout type d'entreprises, cela va de la petite PME familiale aux entreprises de moyenne taille, mais également à des entreprises de plus grande taille, de grande taille même. Et la gamme de services qui sont offerts à ces entreprises varie vraiment entre la recherche de contacts, parfois des contacts au plus haut niveau avec les autorités locales, avec les organisations sectorielles, etc. Donc, c'est vraiment, on aide tout le spectre des entreprises wallonnes et toutes les activités sont représentées. Donc ça va du domaine médical au domaine des équipements, ça va également dans les grands classiques alimentaires belges également. Donc c'est un métier qui est riche en contacts et avec les entreprises wallonnes d'un côté et les partenaires lettons et baltes de l'autre côté. Donc c'est vraiment très très enrichissant.
Chouette job comme celui de reporter auquel Amine, tu as goûté la semaine dernière là-bas en Lettonie. C'est ce à quoi tu te destines parce que tu es en réto, tu es un peu au carrefour. Tu sais déjà ce que tu vas faire plus tard?
Donc j'hésite encore, je t'avoue, mais je compte m'orienter dans les sciences économiques ou les sciences politiques.
Un petit peu comme Jean-Philippe alors. Peut-être,
oui, oui.
Peut-être que tu vas travailler pour la WEX.
Peut-être, on ne sait pas.
Il y a des contrats Explore hein, pour les jeunes, pour aller faire leur stage là-bas à l'étranger. Et puis une expérience dans les Pays-Baltes, ça t'a conquis?
Pourquoi pas, oui. Comme je t'ai dit, la Lettonie, ce n'est pas du tout un pays dans lequel j'aurais été amené à aller. Alors si par rapport à ça, je finis par travailler là-bas, franchement, moi, ça ne me dérange pas.
On va continuer en musique avec un petit bout du film Into the Wild. Ça donne bien l'atmosphère des grandes forêts là-bas, en Lettonie. C'est Eddie Vedder sur la première.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Superbe musique hein, qui nous fait voyager avec les Belges du bout du monde. C'est en direct le dimanche matin ou quand vous voulez sur OVIO. Nous sommes aujourd'hui en Lettonie grâce au ticket pour l'Europe décroché par Amine El-Bakouri. Dis-nous franchement Amine, avant de t'envoyer pour Riga, tu savais même pas où ça se trouvait la Lettonie.
J'avais une petite idée mais déjà j'avais eu une hésitation sur la capitale. À l'aéroport j'ai juste vu Riga. Je savais pas si c'était la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie. C'est vrai qu'on confond beaucoup les trois pays.
Ouais, maintenant tu sais, t'as passé une semaine là-bas. Tes parents sont originaires du Maroc. Quelle région du Maroc?
Mon père vient de Stat, une ville près de Casablanca, et ma mère vient de Fès.
Alors tu t'orientes vers l'économie, hein, tu l'as dit, t'es toujours en réto. Ça tombe bien, Riga c'est la capitale économique des Pays-Baltes. Nous en parlons avec Peter van Engeland qui est à la tête de Bellwood, entreprise forestière créée en Lettonie. Et Jean-Philippe Eschklar qui est conseiller économique et commercial de l'AWEX pour les Pays-Baltes. Allez, on se replonge dans l'ambiance lettonne avec Ligo, un chant de résistance interprété aux quatre coins du pays par d'impressionnants de chorale comme celle-ci. L'Igo, c'est prenant. C'est le genre de musique, Peter Van Engelen, que vous entendez beaucoup en Lettonie.
Oui, c'est très populaire. La musique folklorique est très populaire en Lettonie et la danse surtout. Je pense qu'il y a plus, allez, en pourcentage, plus de Lettons qui dansent que qui jouent au foot. C'est vraiment une tradition. Et l'Igo, c'est une fête. En fait, c'est Midsummer Night. C'est le 23 et le 24 de juin. Mais en Lettonie, ça a une signification beaucoup plus haute que ça. L'Igo, ça a été toujours fêté, même dans les temps soviétiques, et c'était une sorte de proteste. Donc, c'était interdit, mais les Lettons fêtaient toujours l'Igo. Ouais. Et à l'Igo, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'était un acte un peu national ou nationaliste, mais qui a toujours tenu. Et jusqu'à aujourd'hui, les Lettons, ils fêtent l'Igo toujours, et c'est encore une fête avec les danses. Il y a des très grands concerts. C'est la fête la plus grande de l'année. Donc, c'est plus important que Pâques ou Nouvel An. C'est vraiment la fête lettonne.
Ouais, on sent l'attachement à la culture. Et ce chant, oui. Même pour résister face à l'envahisseur, il a persisté. C'est beau. Toi aussi, Amine, tu as rencontré des chanteuses suiti en costume traditionnel, très militante aussi.
Oui. Donc, j'ai interviewé cet homme qui lui voulait construire des éoliennes. Mais donc, ces dames-là, elles habitent tout à l'ouest du pays, vraiment au bord de la mer Baltique. Et donc, elles m'ont expliqué qu'elles étaient totalement contre ce projet parce que ça allait dégrader l'environnement visuel de la mer Baltique. Parce que c'est vraiment tout vide, comme vous le verrez sur les images. Et donc, installer des centaines d'éoliennes, pour elles, ça n'allait pas.
Ouais, tu parles des images, ce sera à 11h sur Ovio tout à l'heure, à 23h aussi demain soir sur Tipeee et tous les samedis à 12h15 sur La Une. Jean-Philippe Schlar, lui, nous raconte comment il a découvert la Lettonie. Quand il avait ton âge, il y a une vingtaine d'années, il était toujours étudiant.
Alors, j'ai découvert cette région en 2003 à l'occasion d'un séjour Erasmus que j'ai effectué dans le cadre de mes études. Et ce séjour s'est déroulé à Tartu, une ville d'Estonie. Je ne connaissais absolument pas la région. À l'époque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie n'étaient pas encore entrées dans l'Europe. Et c'était la toute première fois qu'il y avait un accord de coopération au niveau Erasmus entre l'université où j'étais et l'université de Tartu. Et donc, je suis parti un peu à l'aventure en 2003 là-bas. Ça m'a tellement bien plu que j'ai tout fait après pour essayer de revenir dans la région. Et l'année d'après, en 2004, j'ai effectué un stage dans le bureau de la WEX à Riga, en Lettonie, pendant le deuxième semestre 2004. Et le hasard fait que 20 ans plus tard, ce bureau même que j'occupe de manière professionnelle, vu que je suis attaché économique et commercial pour la WEX dans les Pays-Baltes et la Finlande, et que notre bureau est basé à Riga. Donc c'est vraiment un clin d'œil à l'histoire, à mon histoire en tout cas, d'être là où j'ai été étudiant, et c'est vraiment un chouette sentiment que d'avoir pu réaliser ce rêve qui était de revenir habiter ici et d'exercer un métier qui m'était cher également. Voilà.
De boucler la boucle, hein, c'est bien. Vous, Peter, vous êtes arrivé encore avant, en 1996. Je crois qu'à l'époque, c'était un pays très, très pauvre, la Lettonie.
Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé en Lettonie, en 1996, il n'y avait presque pas de voiture. Quand on allait en voiture, les gens te regardaient. C'était un pays en ce moment qui était aussi économiquement très faible, avec une mafia qui était quand même très, très forte en ce moment. Pour vous donner une impression, je travaillais pour une firme de transport. La première année, j'ai deux fois eu des gens avec des pistolets dans le bureau qui venaient demander de l'argent. Et c'était quand même assez effrayant. Dans ce sens, tout a changé, il faut le dire. Donc, dans la durée de 10 ans, la sécurité a changé énormément. Mais au début, c'était quand même une aventure, la Lettonie.
Oui, vous avez attendu une quinzaine d'années avant de fonder une famille, hein, puisque vous êtes marié depuis une quinzaine d'années et vous êtes jeune papa. Mais je comprends que vous ayez attendu un petit peu, hein, c'est mieux. Ça a changé, tu n'as pas eu un pistolet sur la tempe, Amine, tu n'as pas senti cette ambiance de mafia en arrivant à Riga?
Alors non, pas du tout. D'ailleurs, c'était plus le contraire. En fait, la ville, en tout cas à Riga, beaucoup de policiers dans les rues et il y avait même l'armée à certains endroits.
Tu étais là pour bosser, faire des reportages, entre autres sur les énergies. Voici ton ordre de mission, signé Pierre Gallo.
La Russie est depuis un moment un des principaux fournisseurs d'énergie de l'Europe. Mais depuis l'invasion en Ukraine, les Européens ont commencé à se dire les gens, on n'essayerait pas de se passer de la Russie, là ? La Lettonie, elle, fait partie des tout premiers à avoir dit stop presque du jour au lendemain. Par exemple, en 2020, 100% du gaz importé en Lettonie était russe. Seulement 2 ans plus tard, en avril 2022, le robinet a été totalement coupé. Fini le gaz russe. Mais bon, les Pays-Baltes s'étaient en fait préparés depuis des années à coup d'investissements massifs dans des gazoducs pour mieux se connecter aux autres pays européens ou encore dans des éoliennes pour produire plus d'énergie avec moins de gaz. Ils font aussi venir du gaz sous forme liquide par bateau depuis d'autres pays que la Russie, et puis la Lettonie a accumulé depuis quelques années du stock sous terre, ce qui lui permet d'avoir de la marge. Mais est-ce que tout ça suffira sur le long terme ou est-ce qu'il faudra retourner vers la Russie à un moment, et est-ce que le prix de l'énergie ne va pas se mettre à augmenter avec tout ça? Il y a plein de questions qui se posent et tu vas pouvoir les poser à tes rencontres du jour. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao!
Et dans ces rencontres du jour, il y a un certain Gettys Galvins que tu as rencontré au bord de la mer Baltique. Il faisait un froid de canard, Amine.
Oui, ça vous le verrez bien. Tout le long, il y avait du vent, donc c'était pas très tenable, mais ça va, je suis resté jusqu'au bout.
On va écouter un petit extrait de cet échange que tu mènes brillamment en anglais et en français dans le texte.
Il y a un monsieur tout seul là-bas. Niveau météo, on n'est pas trop gâté, il pleut, il fait un peu froid, il y a beaucoup de vent. Moi, je voulais aller à Chypre, hein. Mais bon, allez, on va aller le rencontrer. Bonjour!
Bonjour!
Ça va? Je m'appelle Amine.
Nice to meet you. My name is Gettys Galvins. I'm chair of supervisory board of Latvian Wind Energy Association.
Enchanté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre travail un peu? Qu'est-ce que vous faites ici au bord de la mer?
So, as you see, in Latvia, we have a lot of wind, as today. We are going to change our full economy on renewable energy, and especially we are making big hopes on wind energy.
Et actuellement, est-ce qu'il y a assez d'éoliennes sur votre territoire pour couvrir tous vos besoins en énergie?
At this moment, we had built around 140 megawatts of wind energy, but it looks like at least we see that it will really rapidly increase in closest years.
Yeah.
Because we have a lot of new project announcements in Latvia, so in short time we will reach more than 100% of supply of wind energy if everything goes as we plan.
Mais si, c'est un peu froid, donc si on peut peut-être aller ailleurs.
If someone is asking, do we have wind in Latvia, you can say yes, there is a lot of wind there.
Yes, yes.
Source d'énergie, le vent. Voilà, c'est vraiment été dans le sujet.
Ouais, là, vraiment.
Le wind of change, le vent du changement qui souffle sur la Lettonie, qui se reconvertit maintenant à l'éolien. On parlera aussi des énergies forestières avec Peter Van Engelen, notre Belge du bout du monde. À suivre aussi la musique des rites solaires et un petit tour dans les cascades de Lettonie après la pub. Ne bougez pas.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Nous sommes le dimanche 21 avril 2024. Dans cette semaine, le 9 juin, 11 millions de Belges seront appelés aux urnes. Et en Lettonie aussi, on va voter. Parmi les jeunes Belges qui vont voter pour la première fois, ben il y aura Amin El Bakouri. T'as jamais voté de ta vie, forcément. Tu viens d'avoir 18 ans. Cette plongée en Lettonie, ben ça t'a aussi sensibilisé au sentiment européen. C'est quelque chose d'important pour toi?
Ouais, donc là-bas en Lettonie, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres jeunes qui avaient plus ou moins mon âge. Donc je suis un peu discuté avec eux et c'est vrai qu'il y avait une seule chose, malgré toutes nos différences, qui nous rassemblait, c'était l'Europe.
Ouais, et le fait que vous alliez tous voter pour la première fois. Au casting, vous étiez 800. Toi, tu as convaincu le jury en te présentant comme un super candidat. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé parce que franchement, à 18 ans, et encore, t'es parti, t'avais 17 ans et des poussières. Faire ce que t'as fait, mener les interviews en anglais, rencontrer des gens de milieux tellement différents, des chefs d'entreprise, des jeunes musiciens de hard rock dans quelques minutes. Vous allez les entendre, vraiment super. Faut dire que tu as l'habitude de dialoguer avec ceux qui n'ont pas la même opinion que toi. Tu es président des rétos dans ton école.
Ouais, c'est ça. Donc cette année, j'ai plein d'amis qui m'ont encouragé à me présenter. Donc je me suis présenté pour être président des rétos. Donc je suis au collège Saint-Stanislas à Mons. Et j'ai remporté ces élections. C'est une super expérience. On fait des vents tout au long de l'année. on prend un peu les décisions pour les activités qui sont faites. Donc franchement, c'est super.
Ouais, tu es d'origine marocaine, hein, tu nous le disais. Tout ce qui concerne la migration, la mobilité, ça te passionne?
Ouais, c'est ça. Donc c'est un sujet qui me touche parce que mon père est arrivé ici pour faire ses études quand il a eu 25 ans. Et donc la Belgique l'a accueilli, il a terminé ses études, il a trouvé un travail ici. Et il a fondé une famille, donc voilà, donc je suis très content et très fier d'être belge.
Ouais, ouais. Et nous, on est fiers de toi, on te verra à la télé ce matin à 11h sur Ovio et sur Typique demain soir à 23h. Peter Van Engelen nous parlait des fêtes du solstice d'été. Je propose d'écouter la musique des rites solaires tels qu'on les entend là-bas en Lettonie. Écoutez, c'est très très dépaysant.
Les Belges du bout du monde.
Ziedi kviesi šami, balti ziedi kviesi šami, balti ziedi kviesi šami, kviesi šami.
La musique des rites solaires, ce sont les fameux Daina qu'on chante en Lettonie. Vous comprenez, Peter Van Engelen? J'imagine que vous parlez letton.
Je parle letton et je parle aussi russe, parce que mon entreprise se trouve dans une région qui est russophone.
Oui, vous êtes à Daugavpils, c'est à la frontière avec la Lituanie et la Biélorussie. Donc un endroit très très reculé, hein? Loin de Riga, en pleine nature, oui. En pleine forêt. Alors, il y a un mois, c'était l'équinoxe de printemps. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nature, des forêts, de ce que vous voyez autour de vous?
Ici, dans la région où je me trouve, il n'y a presque pas d'industrie. Juste tout ce qui est connecté au bois, à l'industrie du bois. Les gens, les Lettons, sont des gens qui sont très attachés à la nature et qui vivent beaucoup de fois isolés dans la nature. Donc, tout ce qui concerne chasse, qui concerne cueillette de champignons, qui concerne les bois, tout le monde se sent très connecté et participe. Donc, la saison des champignons, les bois sont, allez, pas pleins parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais tout le monde va dans les bois pour cueillir des champignons. En Lettonie, ce n'est pas une nature qui est spectaculaire, mais c'est une nature qui est très calme et qui est très grande. Il y a de la tranquillité, cet silence qu'on a ici dans la nature, ça rend la Lettonie un pays quand même agréable. Il y a des lacs, il y a des forêts et il n'y a pas de monde, il n'y a que les animaux et les plantes qui vivent là. Donc pour les amateurs de nature, c'est vraiment une belle place.
La Lettonie, c'est la forêt, mais ce sont aussi des côtes déchiquetées, un littoral baltique qui fascine Jean-Philippe Schklar.
Il est impossible de ne pas penser à la mer quand on est en Lettonie. C'est-à-dire que le pays offre des centaines et des centaines de kilomètres de côtes au littoral, avec une côte à l'ouest directement sur la Baltique, et puis aussi également une espèce de U qui constitue le golfe de Riga. Et là, c'est un phénomène assez peu connu pour les Belges, à savoir que la côte est dénuée de toute construction humaine. Donc ce sont vraiment des plages sauvages avec d'un côté la mer, une plage, et puis la forêt, des dunes, des forêts de pins, qui offrent vraiment un sentiment de liberté incroyable. On peut se balader comme ça pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. La mer, évidemment, est partout, en tout cas dans la partie ouest du pays. Ensuite, comment ne pas évoquer également tous les parcs naturels qui couvrent la Lettonie. La forêt est omniprésente également, puisque à peu près 60 ou 70% de la superficie du pays est recouverte de forêts. En parlant de superficie, la Lettonie est deux fois plus grande, un peu plus de deux fois plus grande que la Belgique, pour une population six fois plus petite. Et donc, le sentiment qui domine quand on se balade en Lettonie, c'est vraiment le sentiment de liberté, d'avoir l'espace. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop par chez nous non plus. Il y a beaucoup de densité de population. Là, c'est vraiment l'espace. On a l'impression d'avoir le temps, parfois même d'être seul, d'être la première personne qui se rend quelque part, tellement c'est vaste et libre, en fait. Donc, ça, c'est pour les coups de cœur géographiques. Au niveau des villes, comme on n'a pas mentionné, évidemment, Riga, la capitale, qui est un chef-d'œuvre avec beaucoup d'ouvrages Art Nouveau. La vieille ville est absolument somptueuse, elle est à taille humaine et mérite vraiment le détour. Le reste du pays également l'est, hein, si je peux mentionner la petite ville de Kuldiga, qui est maintenant listée depuis peu au patrimoine de l'UNESCO. Kuldiga est une petite ville charmante dans laquelle on peut flâner et qui a cette particularité d'avoir un record du monde, à savoir le record de la cascade la plus large en Europe. 249 mètres exactement.
Kuldiga à admirer. Hein. On a mis plein d'images en ligne sur lapremière.be et sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde. Amine, tu as fait aussi une immersion en nature. Vous avez passé plusieurs nuits, parfois vraiment au bout du monde.
Comme il l'a très bien dit, vraiment ce sentiment de liberté, moi je l'ai ressenti tout au long de mon voyage. Donc le premier jour, on s'est rendu à Riga. Après, on a fait 3h30 de route et on est parti tout à l'ouest du pays. Et donc là, ouais, vraiment, on est arrivé le soir, je me rappelle encore. Et on avait vraiment l'impression d'être seul, d'être libre. Pas beaucoup d'habitants, pas beaucoup de densité. C'était vraiment chouette.
Oui, tu as rencontré là-bas les chanteuses Sweetie en costume traditionnel. Et alors, on va écouter un petit bout où elles chantent. C'est pas pour se moquer de toi, mais un petit peu quand même. Et je crois que Peter va pouvoir traduire la chanson.
Šitais puisis grazni ģērbies tikai bikses nošļukušas. Šitais puisis grazni ģērbies tikai bikses nošļukušas. Aiziesim uz bodi, pirksim tev to lielo dižo siksnu. Aiziesim uz bodi, pirksim tev to dižo lielo siksnu.
Elle vient de rire de mon pantalon là, je sais pas comment je la prends.
Ed puisīti treknu gaļus dzer saldu alutiņu. Ed puisīti treknu gaļus dzer saldu alutiņu.
Thank you so much. Bon, ben, merci pour tout en tout cas. J'ai bien écouté votre problème et je comprends tout à fait. D'ailleurs, je vais changer de pantalon. Je pense que c'est le plus gros problème.
Les polyfolies, Letton, parce que tu chantais avec elle. Mais alors, Peter, il va peut-être pouvoir me confirmer. Vous avez entendu les paroles de cette chanson, Peter ?
Oui, j'ai entendu qu'il parlait du jeune homme et de ses pantalons.
De son pantalon qui, oui, c'est un pantalon qui tombait et qu'on allait lui acheter une ceinture au marché. Ça dit, on sent beaucoup de chaleur humaine entre vous. Elles étaient vraiment contentes de te rencontrer, Amine.
Elles étaient très touchées par la problématique et par le fait que je vienne les rencontrer. Et donc non, franchement, c'était une super expérience et c'est vrai qu'on a directement eu ce lien qui nous a rapprochés.
Allez, on enchaîne avec de la musique un peu plus francophone dans le texte. C'est Zao de Sagazan sur la première dans les Belges du bout du monde.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Retrouvez les photos et les vidéos des Belges du bout du monde sur nos pages Instagram, hashtag La Première et Adrien Jovenot.
La symphonie des éclairs, ça parle nature, c'est beau comme la Lettonie et c'est chanté par Zao de Sagazan sur la première. Elle sera en concert le samedi 13 juillet au Lazemo Festival, c'est à Enghien. Et puis avec la première le dimanche 28 juillet au Festival Esperanza, c'est à l'abbaye de Floreff près de Namur. Un magnifique festival, vous devez y aller. Nous sommes avec Amine. En Lettonie, Amine, Peter et Jean-Philippe. Prochain thème à développer, attention, le service militaire. Invasion de l'Ukraine oblige, guerre aux portes de l'Europe. Le service militaire fait son grand retour dans plusieurs pays, en Lettonie entre autres. C'est le sujet introduit par Pierre Gallo avant de retrouver sur place Amine.
Dans la tête des Belges, le service militaire, c'est de l'histoire ancienne. Perso, j'avais 2 ans quand ils l'ont supprimé en 1995. Et toi, t'étais même pas né. Mais en Lettonie, ils viennent de le remettre en place alors qu'ils l'avaient supprimé en 2007. Pourquoi ? Parce que la Russie... Bah ouais, la Lettonie partage une frontière avec les soviétiques et les Lettons veulent être prêts à se défendre. On sait jamais trop ce qui peut se passer avec Poutine. Et concrètement, tous les pays de l'Union Européenne qui ont encore le service militaire aujourd'hui l'ont soit parce qu'ils ne l'ont jamais abandonné, c'est le cas de l'Autriche, de Chypre, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande et de la Norvège qu'il a même élargi aux femmes en 2014, soit parce qu'ils l'ont réintroduit à cause de la menace russe. C'est le cas de la Lituanie, de la Suède où les femmes sont aussi concernées et dernièrement de la Lettonie. Mais qu'en pensent les gens sur place? Faudrait-il réintroduire le service militaire partout? La question divise en Europe. Et toi, bah tu vas avoir l'occasion d'en débattre avec tes rencontres d'aujourd'hui. Bon allez, je te laisse te préparer.
Et tu as fait 2 rencontres avec des personnes qui ont des avis tout à fait divergents, Amine.
Ouais, c'est ça. Donc tout d'abord, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui font du métal.
Dis tout de suite, c'est pas des sidérurgistes, hein, c'est de la musique métal. Hein,
oui, oui.
Du hard rock, ouais.
Oui, c'est ça. Eux étaient assez... ils n'avaient pas vraiment les valeurs patriotiques. Ça veut dire qu'ils m'ont dit un truc qui m'a marqué, c'est que pour eux, donc si la Lettonie venait à se faire attaquer par la Russie, il y en a un qui m'a dit il faut ir en Australie, l'autre aux États-Unis, voilà. Donc le service militaire, ils n'étaient pas trop pour.
On va l'écouter d'ailleurs, Vincent, leur porte-parole, leader de ce groupe hard rock qui s'appelle les Defects, et il nous parle de son sentiment un peu peace and love. En tout cas, il veut pas du tout faire la guerre.
You know, if I'm conscripted into the military and into the army, I see no value in dying in a war fighting against a Russian who is also statistically conscripted into the war and sent to fight. I'm just killing another person who doesn't want to be there. I am getting killed by one. I don't see value in fighting like that. War is something that is deeply hateful.
On peut pas vraiment lui donner tort, hein. Cela dit, tu as rencontré quelqu'un qui avait un avis assez opposé, Amine.
Le second jeune que j'ai rencontré, lui c'était un sportif d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire des sports avec lui. Et lui voulait rejoindre l'armée lettonne, il était en train de se préparer physiquement pour ça. Et donc lui, il avait un avis différent, lui il avait vraiment les valeurs patriotiques. Lui, il pouvait mourir pour son pays, enfin voilà quoi.
Il t'a fait faire quelques exercices de manœuvre, c'est à voir hein, dans les émissions Un ticket pour l'Europe. Et l'interview que tu as réalisée de lui, c'est en courant autour d'un stade. Vous êtes un peu essoufflé, mais on comprend quand même l'essentiel du message, écoutez.
Et donc la Lettonie, elle fait partie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Et donc, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité, plus à l'abri d'une attaque de la Russie grâce à cette collaboration? Ou alors, ça pourrait quand même vous arriver?
Yes, of course, we are a member of NATO and the European Union. But the issue is there's a place called the Suwalk Corridor, which is between Belarus and Kaliningrad, which is a small piece of land that Russia owns. And if they take the corridor, there is no way to escape Latvia, Lithuania or Estonia.
Okay.
It completely cuts it off. Because Belarus supports Russia, obviously. So our job would be to hold out until NATO can retake the corridor if it comes to it, obviously, this is worst case scenario for joining NATO, is to be at peace.
En tout cas, chapeau Amine d'avoir réussi à interviewer ce futur militaire en courant dans ses pas. C'est pas mal du tout.
Merci beaucoup.
Alors, on t'a vu mercredi dernier au Parlement européen, dans le QR débat, déposer ta proposition inscrite sur le ticket européen. Tu peux nous rappeler un peu ce que tu as proposé au Parlement ?
Donc ma proposition, elle portait sur le service militaire. Et donc ma proposition était d'instaurer une échelle avec plusieurs niveaux d'alerte, tenant compte du risque de conflit impliquant un État membre, et réinstaurer le service militaire obligatoire temporairement lorsqu'un certain niveau d'alerte est atteint. Pour moi, voilà, c'était important que chaque pays prenne ses responsabilités compte tenu des alertes et des menaces qu'il encourt. Et c'est pour cela que j'ai fait cette proposition.
Ouais. Toi, tu as 18 ans. Tu serais prêt, peut-être, à la fin de tes études, si ça devenait obligatoire, à faire un service militaire ?
Si, malheureusement, la Belgique venait à être en conflit ou si une menace pesait sur nous, oui, bien sûr.
Ok. Bah, écoute, merci pour cette proposition et ton franc-parler, en tout cas. Et puis, ces reportages que tu es allé gratter là-bas entre le groupe de hard rock et le jeune milicien. On va retrouver Jean-Philippe, qui est belge aussi, hein, sur place. Jean-Philippe Schklar, qui travaille pour l'AWEX et qui a plein de coups de cœur pour la Lettonie.
Un autre coup de cœur est pour le climat, avec des saisons qui sont très très marquées ici. Donc nous avons quatre saisons bien distinctes, bien qu'elles ne soient pas égales en termes de durée. Donc on a un printemps assez court, un été qui est également assez court, un automne qui dure assez longtemps et un hiver qui dure, lui, très longtemps. En hiver, ce sont des températures qui peuvent être glaciales, hein, entre moins 15, moins 20, même parfois en journée, avec des chutes de neige abondantes, ce qui... Si vous fermez les yeux, vous pourrez imaginer la plage sous la neige, les grandes étendues que je décrivais tout à l'heure, remplies de neige. Donc c'est assez magique et majestueux. Une particularité, c'est pour l'été. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, il peut y avoir beaucoup de soleil également ici, avec des températures assez chaudes également. Et en Lettonie, et c'est partout pareil dans le nord de l'Europe, à l'occasion du solstice d'été à la Saint-Jean, le 21 juin, l'été est célébré. Donc ce sont des grandes célébrations qui ont lieu dans tout le pays. C'est une fête qui est quasiment aussi importante, voire même plus importante que Noël.
Oui, vous nous en parliez tout à l'heure, hein, Peter, ces fêtes. Vous, quand vous ne travaillez pas, Peter, vous avez un peu de loisirs quand même. Vous avez l'occasion d'arpenter ce pays.
On fait plein de choses, mais comme Philippe a dit, l'hiver est très long, donc il faut s'adapter. Donc l'hiver, je joue beaucoup au tennis et au padel. Et on fait aussi avec la famille du ski de fond régulièrement. Je suis aussi un pêcheur, j'aime bien la pêche, donc je suis dans un bon lieu ici. Et la cueillette des champignons, qui est le loisir préféré de ma femme, je suis bien obligé d'y aller aussi. Alors.
Elle s'appelle comment, madame ?
Ma femme s'appelle Yevgenia.
Yevgenia, Eugénie
Oui, c'est ça, ah. Eugénie. Ah ouais. Oui. Maintenant, elle s'appelle Van Engelande, mais avant, c'était Pinienkova.
Une jeune femme lettonne, oui. Hein, donc, votre épouse, oui. Et avec qui vous avez fait deux enfants. Mais on vous souhaite bonne continuation. Oui. C'était vraiment un bonheur, hein, de parler avec vous. On va demander à chacun, à peut-être maintenant, un petit tour de table. Et demain, comment vous voyez les choses et le mot de la fin, Jean-Philippe ?
Demain, ce sera certainement un nouveau pays, une nouvelle ville, en Europe ou quelque part d'autre dans le monde. En effet, hein, nos métiers sont ainsi constitués que tous les 6-7 ans, nous sommes amenés à changer de pays d'affectation, de région d'affectation. Donc ça pourrait être en Europe ou quelque part d'autre dans le monde. Donc ce sera mon cas également, certainement prochainement. Et si j'ignore de quoi demain sera fait, par contre, j'en suis certain, je continue à revenir en Lettonie et dans les pays baltes en général, car je suis amoureux de cette région et elle fait partie intégrante de moi et j'aurai toujours ce besoin de revenir m'y balader et d'y flâner.
Vous aussi, Peter, vous allez rester actif en Lettonie ?
Je pense que je resterai actif en Lettonie. Je suis avec ma famille toujours attaché à la Lettonie, donc je reviendrai toujours. Mais si je resterai toute ma vie, si ça, c'est pas certain.
Vous allez retrouver l'autre plat pays, parce que la Lettonie, c'est tout plat, un peu,
oui,
comme,
ça,
un peu comme la Belgique. Et puis, la petite conclusion du reportage, enregistré sur place par Amine, là-bas, au bord de la Baltique.
Donc, le voyage touche petit doucement à sa fin. Franchement, ça a été
4 jours incroyables, genre vraiment. Alors que je pensais pas au début, hein. Je vous avoue, quand on m'a dit la Lettonie, c'est pas que j'étais déçu, mais c'est pas un pays que j'aurais fait de moi-même, quoi. Donc, ouais, donc ça a été vraiment 4 jours incroyables. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur des sujets, comme pour l'éolien. Au début, j'étais totalement pour. C'est vert, c'est tout est ok, quoi. Alors que comme je l'ai vu, ça a quand même beaucoup d'impact négatif. Ça a été aussi enrichissant, j'ai fait plein de rencontres, notamment avec des jeunes. Mais c'était vraiment deux belles rencontres parce qu'on avait, plus ou moins le même âge, quoi, et on vivait dans deux pays différents. Ici, je pourrais rester dans ce pays encore plusieurs semaines, même finir mes vacances ici. Donc ouais, non, je m'attache beaucoup. Et même aux gens que j'ai rencontrés, ils avaient ce côté friendly et j'ai envie que ça devienne mes potes, quoi. Mais en tout cas, je les oublierai pas. Donc si je devais retenir une seule chose de ce voyage, ça serait vraiment... l'aventure. J'ai été à la découverte de personnes que j'aurais jamais rencontrées. J'ai été dans un pays dans lequel j'aurais jamais été. Et donc ouais, c'est vraiment l'aventure. Même au début, tout ça, ça me stressait, les caméras. Quand vous êtes venu chez moi me chercher et que j'ai ouvert la porte et que, oh, directement une caméra, moi j'étais pas fort à l'aise. J'avais qu'une seule envie, c'était de m'amuser. J'ai arrêté de penser à tout ça. Faut faire des choses dans la vie.
Pour faire des choses dans la vie. Ah, ça, c'est la punchline. Faut faire quelque chose de sa vie. C'est clair. Merci infiniment, Amine.
Merci à toi, Adrien.
Merci aussi à Paul Michel qui réalisait cette émission mise en image par Léa Defour sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde. Une production de Françoise Pastel. La semaine prochaine, nous serons dans un autre jeune pays européen, la Croatie, chez l'écrivain Nicolas Hanot, auteur des Vaches de Monsieur Burbure. Dans un instant, le tournant d'Arnaud Reussen.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Podcast. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.